VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. L'affaire Béatrice Stockley pour commencer. La Suisse exige la libération sans condition de sa ressortissante Béatrice Stockley enlevée au Mali. Une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a publié une vidéo posant des conditions à sa remise en liberté. Idriss Fall.
C'est Al Akhbar, une agence mauritanienne qui a annoncé avoir reçu une vidéo de l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce groupe affirme avoir enlevé Béatrice Stockley dans la nuit du 7 au 8 janvier et exige en contrepartie de sa libération la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et d'Abou Tourab, détenu à La Haye par la Cour pénale internationale. D'après Al Akhbar, l'otage apparaît dans la vidéo et décrit son enlèvement. La Suisse a demandé sa libération sans condition, tout en refusant de dire s'il y a eu une demande de rançon. Béatrice Stockley, qui revendique sa foi chrétienne, était très impliquée dans les actions sociales à Tombouctou. Elle a déjà été enlevée en 2012, mais a été libérée au bout d'une dizaine de jours de captivité grâce à une médiation burkinabé. Malgré les mises en garde, elle est revenue s'installer à Tombouctou en janvier 2013, quand les djihadistes ont été dispersés par une intervention militaire française.
Au Burkina Faso, conférence de presse du procureur de la République aujourd'hui à Ouagadougou sur les attaques terroristes qui ont ciblé la capitale le 15 janvier passé. Il en ressort que l'enquête avance et qu'elle renforce la thèse des trois assaillants. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
C'est dans la salle de conférence du palais de justice de Ouagadougou que Madame le procureur du Faso, entourée du capitaine de gendarmerie Youmandia Lompo et du substitut du procureur Sylvain Sawadogo, a livré dans sa déclaration liminaire le film des attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou. Du bilan, écoutons Madame le procureur Maïsa Sérémé.
30 morts tous identifiés, 3 assaillants tués, 71 blessés signalés et identifiés, 176 otages libérés, 22 véhicules consumés, 24 motos consumées, 18 véhicules endommagé par des impacts de balles. Le café Capucino consumé par les flammes. Le hall d'entrée de l'hôtel Splendide partiellement détruit. Des fenêtres et des portes abîmées. Le maquis Taxi Bruce criblé de balles. Des portes et des fenêtres de Yibi Hôtel abîmées.
Sur les interpellations, Madame le procureur a assuré que le candidat à la présidence du Niger a été relâché. Une seule personne reste toujours en garde à vue. Ce fut alors pour nous les journalistes une vraie gymnastique avec le capitaine de gendarmerie Youmandia Lompo, pour en savoir plus sur cette personne. Suivons le capitaine Youmandia Lompo.
Tout ce que je puis vous dire pour l'instant, c'est que nous avons retrouvé un lien entre les assaillants et lui. Maintenant, c'est quel est le niveau d'implication entre les deux parties que nous cherchons encore à développer, à nous faire une idée plus exacte. Concernant son identité, permettez-nous de ne pas la dévoiler, permettez-nous de ne pas en dire davantage parce que la nationalité, il est national. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent.
À la fin de la conférence, l'appel à témoins a été réitéré par Madame le procureur afin d'aider la justice dans cette enquête. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, 3 kamikazes se sont fait exploser aujourd'hui dans la ville de Chibok, dans le nord-est du pays, tuant au moins 10 personnes et en blessant plus de 30 autres, selon un responsable local. C'est dans cette localité que le groupe islamiste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes en 2014. 219 d'entre elles sont encore en captivité, près de 2 ans après leur rapt. Et puis au Niger, moins d'un mois maintenant avant le premier tour de la présidentielle du 21 février, la coordination exécutive nationale de l'Observatoire du processus électoral dénonce ce qu'elle appelle la propagande du pouvoir avant même l'ouverture de la campagne électorale en faveur du président Mahamadou Issoufou qui espère remporter un second mandat. Au micro de Nicolas Pinault, les explications d'Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence.
On n'a jamais aussi vécu de fortes tensions à la veille d'élections dans notre pays que ces derniers temps. C'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Le cours des événements nous inquiète dans le sens que nous disons que si nous ne sonnons pas l'alerte, nous risquerons d'aller dans l'abîme et notre pays risquerait bien fort de se retrouver avec une crise post-électorale.
Qu'est-ce qui bloque concrètement?
Ce qui aujourd'hui bloque, c'est carrément la violation des textes de la République en matière électorale. Aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir, notamment, s'implique énormément dans la campagne électorale en violation de ces textes. Nous constatons l'implication de couches qui ne sont pas destinées à faire la politique, notamment la chefferie traditionnelle, les chefs religieux aussi sont en train d'être impliqués dans ce processus électoral en violation des textes en vigueur. Voilà un peu ce qui nous a amené à dire aux autorités de pouvoir arrêter cette tendance à ne pas respecter les textes de la République. Si vous suivez la télévision nationale dans notre pays, vous allez comprendre que ça ne joue que pour seulement un seul clan, notamment le clan au pouvoir.
Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB au Niger.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ouverture demain à La Haye, aux Pays-Bas, du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce sera la première fois qu'un ancien chef d'État comparaît devant la CPI. Éric Manirakiza.
Laurent Gbagbo, 70 ans, et Charles Blé Goudé, 44 ans, seront sur le banc des accusés. Les deux hommes vont plaider coupables ou non coupables de 4 crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. À l'ouverture, la procureure Fatou Bensouda prendra la parole, ainsi que les représentants des victimes, puis les avocats à la défense. L'accusation dit disposer de 138 témoins qui ne seront pas tous appelés à la barre et de 5300 éléments de preuve. Ce procès devrait durer 3 à 4 ans. La crise post-électorale de 2010 avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, arrêté en 2011, est le premier ancien chef d'État livré à la CPI. Son épouse Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Jusque-là, aucun membre du camp d'Alassane Ouattara n'a été inquiété par la CPI. Les partisans de M. Gbagbo sont attendus devant la CPI pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complot ourdi par la France.
Afrique centrale maintenant. En RDC, forte augmentation du nombre des violations des droits humains en 2015. L'ONU tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié aujourd'hui à 10 mois de la présidentielle. Les grandes lignes du document. Avec José Maria Aranaz, directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme en RDC, au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
En total, on a enregistré 3847 violations des droits de l'homme, les agents étatiques. Ils sont commis aussi 294 exécutions extrajudiciaires. On a documenté aussi 260 violations des droits de l'homme qui ont des relations avec les processus électoraux, une tendance préoccupante à la restriction de l'espace politique et de la restriction de la liberté publique, contraire à l'esprit des élections crédibles.
José Maria Aranaz, directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme en RDC. Et puis, au Congo-Brazzaville voisin, l'opposition fait contre mauvaise fortune bon cœur après la désignation du président Denis Sassou Nguesso par le parti au pouvoir pour le représenter au scrutin du 20 mars prochain. Au micro de Nani Talani, Guy-Romain Kinfoussien, un leader de l'opposition à Brazzaville, affirme que l'opposition évitera surtout la politique de la chaise vide.
C'est un résultat qui était connu d'avance. Ce n'est pas une surprise, ni pour le peuple congolais, ni pour ceux qui suivent l'activité politique au Congo. M. Sassou, de manière unilatérale, a voulu changer la constitution par laquelle il a eu toute la légitimité d'être le président du Congo. Et en cours de parcours, avant la fin de son mandat, il l'a abandonné pour faire adopter par référendum une autre constitution. Un référendum qui s'est mal passé. Sa volonté farouche, c'est d'avoir un troisième mandat, mais en réalité, c'est pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Pour se maintenir au pouvoir de manière tout à fait protégée, il est obligé de forcer la loi fondamentale qui lui donnait juste deux mandats. La course vers laquelle M. Sassou est en train de galoper est une course pour se maintenir au pouvoir, vitam aeternam.
Maintenant que la course est déjà lancée, que compte faire l'opposition ?
L'opposition, on va y aller à condition que les conditions permissibles soient respectées.
Guy-Romain Kinfoussien, leader de l'opposition au Congo-Brazzaville. Et pour terminer, le conflit en Syrie. Les belligérants syriens sont attendus ce vendredi à Genève pour de nouveaux pourparlers de paix. Mais le plus urgent en ce moment, selon les organisateurs de la réunion, c'est d'acheminer les secours aux millions d'habitants des villes assiégées en Syrie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.